Radio Prague, les informations. Bonjour, les députés ont approuvé le projet de nouveau code civil. Le taux de chômage en République tchèque s'est élevé à 8,2% au mois de mai. Et puis enfin, les femmes députées tchèques étaient habillées en rouge ce mercredi pour manifester leur soutien à la lutte contre le cancer du sein. Comme annoncé en titre, la Chambre des députés a donc approuvé en première lecture ce mercredi le nouveau Code civil qui modifie notamment trois domaines fondamentaux, à savoir la famille, les biens ou la propriété et les contrats. Le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, a indiqué que la République tchèque avait besoin d'un nouveau Code civil plus libéral. L'actuel ensemble de lois, amendé à plusieurs reprises, datant de 1964. En visite à Hambourg, le président de la République, Václav Klaus, a critiqué la décision prise par l'Allemagne d'abandonner définitivement l'énergie nucléaire d'ici 2022. Selon le chef de l'État, il s'agit, je cite, d'une démarche irrationnelle, irraisonnable et populiste. Václav Klaus s'est également déclaré réservé par rapport aux estimations du gouvernement tchèque, selon lesquelles l'abandon du nucléaire par l'Allemagne pourrait entraîner d'ici une dizaine d'années une augmentation de 30% du prix de l'électricité en République tchèque. À Hambourg, Václav Klaus a assisté mardi à l'ouverture du forum économique tchéco-allemand. Le taux de chômage en République tchèque s'est élevé à 8,2% en mai. Il s'agit d'une baisse de 0,4 points par rapport au mois d'avril et du taux le plus faible depuis juin 2009. Les chiffres ont été communiqués ce mercredi par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Selon les analystes, cette amélioration de la situation sur le marché du travail s'explique notamment par la réapparition des emplois saisonniers, une hausse de l'offre de travail dans le secteur industriel, ainsi que par un intérêt plus important pour des départs en retraite anticipée. Près de 490 000 personnes restaient cependant sans emploi à la fin du mois de mai. Les ministres de l'Agriculture des 27 se sont entendus mardi à Luxembourg sur le versement d'indemnisation aux producteurs de légumes européens affectés par la crise de l'E-coli. La Commission européenne va donc accroître substantiellement son offre de créer un fonds de 150 millions d'euros pour compenser à hauteur de 30% de leurs pertes les producteurs. Selon le vice-ministre tchèque de l'Agriculture, les producteurs tchèques devraient également bénéficier de ces dédommagements. Le vice-ministre estime que les pertes des agriculteurs tchèques s'élèvent à environ 50% en ce qui concerne la production de concombres et à 30% la mévente des tomates et des laitues. Toutes les femmes siégeant à la Chambre des députés, quel que soit leur parti, étaient habillées en rouge ce mercredi. En rose, pardon, et non pas en rouge. L'objectif de cette démarche était de manifester leur soutien à la lutte contre le cancer du sein, mais aussi de prouver qu'elles savaient se mettre d'accord. Une marche au profit de la lutte contre le cancer du sein se tiendra samedi à Prague. Par ailleurs, les députés entendent également exprimer leur mécontentement sur la manière dont leurs collègues hommes résolvent certains conflits et différends. On passe à la culture. Une exposition interactive consacrée au compositeur Antonín Dvořák sera ouverte ce jeudi au Musée tchèque de la musique à Prague, dans le quartier de Malá Strana. Organisateur de l'exposition, le Musée national de Prague abrite la plus importante collection au monde d'objets liés à la vie et à l'œuvre du compositeur, avec près de 8000 pièces. Les visiteurs auront l'occasion de voir des partitions originales d'Antonín Dvořák, dont celle de la célèbre symphonie numéro 9 du Nouveau Monde, mais aussi des lettres, photographies et autres affaires personnelles du compositeur. Le musée proposera des visites guidées destinées aux enfants ainsi qu'une série de concerts et de spectacles. L'exposition restera ouverte jusqu'au 29 février 2012. On termine avec un mot de météo. C'est un temps nuageux qui règne sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Stanislava. Des averses sont également prévues, notamment dans le sud-est du pays. Le soleil fera cependant quelques apparitions dans le courant de l'après-midi, essentiellement dans la partie ouest du pays. Les températures varient entre 17 et 21 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention, merci également de rester en notre compagnie et celle notamment d'Alexis Rosenzweig que vous retrouvez tout de suite pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Protestation contre le projet du ministère de la Culture de démolir un des immeubles de la place Venceslas. Un prix prestigieux décerné à l'aéroport de la capitale tchèque, l'aéroport de Lousigné. Ce seront les premiers thèmes de cette émission. Et comme tous les mercredis, nous ouvrirons un nouveau chapitre de l'histoire tchèque. Un chapitre tragique cette semaine, puisque c'est bientôt l'anniversaire de la tragédie du village de Lidice, tragédie récemment portée sur écran. Ce sera dans une petite dizaine de minutes avec Anna Kubishta. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce programme enregistré dans nos studios du centre de Prague. Plusieurs centaines de personnes ont protesté hier mardi au centre de Prague contre la démolition de la maison du numéro 47 de la place Venceslas. Selon la récente décision du ministère de la Culture, l'édifice, qui se trouve au cœur du site historique classé, doit céder la place à un nouveau centre administratif, Václav Richter.
Toute la partie centrale de la place Venceslas a été remplie par les manifestants venus avec des pancartes et appelant à la démission le ministre de la Culture Jiří Besser et le chef de la section des monuments historiques de la municipalité de Prague, Jan Kněžínek. Ces fonctionnaires sont considérés comme les principaux responsables d'une décision qui risque de devenir fatale pour l'élégante maison dans le style art déco au coin de la place Venceslas et de la rue Opletalova. La manifestation a été organisée par le Club pour la Vieille Prague, association qui cherche à protéger le patrimoine architectural de la capitale tchèque. Le club a aussi lancé une pétition contre la démolition de la maison signée déjà par plus de 11 000 personnes. Pour les membres de l'association et pour certains spécialistes de la protection des monuments historiques, la maison est devenue un symbole. Ils sont convaincus que sa destruction pourrait servir de précédent pour d'autres décisions de ce genre. C'est ce qu'a exprimé lors de la manifestation la présidente du club pour la vieille Prague, Kateřina Bečková.
Si l'on démolit cette maison de la place Venceslas, on pourra démolir ici et dans le site historique classé de Prague des dizaines d'autres maisons. Et des centaines de maisons pourront être détruites dans les sites historiques dans toute la République tchèque.
Parmi les personnalités qui ont pris la parole devant les manifestants, il y avait entre autres le doyen de la faculté des lettres de l'université Charles, Michal Stehlik, l'historien d'art renommé Jan Reut, et aussi le président de la filiale tchèque du Conseil international des monuments et des sites, Josef Stulz, qui a dit entre autres.
Je crains que Prague risque par son approche de cette affaire la même chose que la ville de Dresde il y a quelque temps. Rassurée par la grande politesse avec laquelle l'UNESCO traitait ses États membres, la ville de Dresde s'est dite avec forfanterie que personne n'avait le droit de s'immiscer dans ses affaires. Et c'est ainsi que la ville a perdu la marque de la qualité culturelle suprême et a été retirée de la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO.
Deux arguments majeurs ont été utilisés par le ministre de la Culture pour justifier son aval donné à la démolition. Il affirme que l'investisseur est déjà allé loin dans la préparation du projet et qu'il pourrait demander maintenant un important dédommagement, et il met également en cause la valeur architecturale de l'édifice. Cependant, parmi les spécialistes interrogés dernièrement par la presse à ce sujet, seul l'historien de l'architecture Zdeněk Lukeš a exprimé une opinion semblable. À son avis, l'architecture de la maison n'a pas de valeur particulière. Et le site historique de Prague ne doit pas être considéré comme intouchable. Cette opinion n'est pas partagée, entre autres, par Josef Labus, architecte renommé, qui lui aussi a pris la parole à la manifestation.
Je ne pense pas que cette maison soit la plus précieuse de toute la place Venceslas, mais elle se classe certainement dans la meilleure moitié des maisons de cette place. Certes, la maison a été remaniée, mais je pense qu'elle se distingue par son style plein de finesse et d'invention. C'est une des meilleures maisons de cette place, elle n'est pas la meilleure, mais elle est en tout cas supérieure à la moyenne. C'est pourquoi je serais désolé qu'elle soit démolie, et je ne comprends pas pourquoi elle devrait être démolie.
Pour les membres des clubs pour la vieille Prague, la manifestation n'est qu'un premier pas dans la série d'activités prévues dans le but de sauver la maison menacée. Ils vont maintenant négocier avec les fonctionnaires du premier arrondissement de Prague, organe qui peut délivrer le permis de démolition, et ils vont demander aussi à l'UNESCO de s'exprimer sur cette affaire.
Une bonne nouvelle pour la capitale tchèque, l'association du transport aérien international IATA a décidé cette année de récompenser l'aéroport de Prague Ruzyně, qui s'est distinguée par la qualité des services proposés et par sa capacité à se développer. L'aéroport, que l'État tchèque souhaite privatiser depuis un certain temps, a été le seul à recevoir ce prix cette année. Prague est aussi devenu le premier aéroport d'Europe centrale et orientale à ainsi être honoré. Pierre Maignan pour plus de détails.
C'est à Singapour, ce lundi, que l'IATA a mis à l'honneur l'aéroport de Prague-Louginié en lui attribuant le prix Eagle Award, pour lequel il était nominé pour la première fois. Ce prix s'appuie sur différents critères tels que la satisfaction des voyageurs, la qualité des services fournis, le volontarisme de la politique de l'aéroport ou encore sa transparence. Jiří Pos est le président directeur général de l'aéroport. Il s'est montré ravi par cette distinction qui constitue pour lui un encouragement supplémentaire à s'affairer à l'amélioration des services rendus par l'aéroport pragois.
C'est une grande motivation qui nous pousse à continuer le travail. Ce qui est intéressant, c'est que la taille importe peu. Nous sommes en effet parvenus à rejoindre le groupe des aéroports comme ceux de Séoul, Singapour ou Vancouver. Mais il s'agit avant tout d'une appréciation de l'ensemble de nos activités à travers un large spectre qui ne prend pas seulement en compte les voyageurs et les compagnies aériennes, mais bien les aéroports et leur capacité à offrir un espace à l'atmosphère détendue et sécurisée, et ainsi de suite.
L'aéroport de Prague est en effet un petit aéroport qui a vu transiter 11,56 millions de passagers en 2010. C'est peu au regard du trafic international qui est estimé à 2,5 milliards de passagers. Pour autant, le nombre de voyageurs à être passé à Prague-Louginié a quasiment triplé en un peu plus d'une décennie et sa capacité d'accueil ne cesse d'augmenter, notamment depuis l'ouverture en 2006 d'un nouveau terminal à l'architecture résolument moderne. Par ailleurs, si l'aéroport a obtenu ce prix, c'est certainement en partie grâce à sa capacité à intégrer de nouvelles technologies innovantes, telles que notamment le développement du système Wiltug. Celui-ci consiste en un moteur électrique qui permet aux avions de pouvoir se déplacer au sein des aéroports de façon autonome, sans avoir à utiliser leurs réacteurs ni à faire appel à des tracteurs-avions. Cela implique une réduction des émissions de gaz polluants, mais aussi des coûts d'entretien des appareils. Jiří Pos nous parle des espoirs que suscite cette technologie, qui, rappelle-t-il, n'en est qu'à ses balbutiements.
C'est quelque chose qui est en train de voir le jour, quelque chose qui ne fait que commencer. Il s'agit simplement d'une tentative de suppléer les moteurs principaux des avions à l'aide d'un deuxième générateur qui serait actionné par l'énergie électrique. Cela nous permettrait d'économiser nos besoins en carburant et de réduire nos émissions de CO2.
Certaines technologies ne semblent pas encore vraiment au point. C'est le cas des bandes d'enregistrement électroniques, comme le constate Jan Jindrak, un voyageur qui semble cependant relativement satisfait des prestations offertes à Louginié.
Je pense que cet aéroport est super, mais qu'on peut encore améliorer certaines choses. Par exemple, il y a quelques problèmes avec les bornes d'enregistrement en libre service.
L'histoire de l'aéroport est ancienne puisque son ouverture date de 1937. Il constitua un intérêt stratégique clé pour les troupes du pacte de Varsovie en 1968. Dans la nuit du 20 au 21 août, des parachutistes soviétiques s'en emparèrent, ce qui facilita grandement l'acheminement de troupes et de matériel en Tchécoslovaquie. Sa location en plein cœur de l'Europe en fait un nœud aérien très intéressant, expliquant son développement très rapide depuis la chute du communisme. Et la direction de l'aéroport semble se préparer sérieusement à l'intensification de ses activités. À l'avenir, le prolongement d'une ligne de métro permettra ainsi de faciliter la liaison vers le centre de Prague. Les travaux devraient commencer en 2014. Par ailleurs, l'aéroport ambitionne de construire une nouvelle piste d'atterrissage pour faire face à l'accroissement rapide du trafic aérien.
Suite de notre émission en français, c'est déjà la fin de la première partie du programme en français de Radio Prague. Mais surtout, restez à l'écoute, on passe à l'histoire. Dans deux jours, le 10 juin, 69 ans se sont écoulés depuis la tragédie de Lidice, petit village tchèque rayé de la carte par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Jeudi dernier est sorti en salle le film « Lidice » du réalisateur Peter Nikolaev. On en a parlé dans une rubrique culturelle. Et on revient aujourd'hui dans cette page d'histoire sur le récit de cette tragédie et sur la façon dont elle a été traitée par le 7e art avec Edward Sterik. Il est historien, auteur d'un livre de référence sur la question. Il a été conseiller sur le tournage du film « Lidice ». Ce chapitre de l'histoire vous est cette semaine proposé et présenté par Anna Kubishta.
Chapitre de l'histoire.
Lidice, c'est l'histoire d'un village situé près de Prague, entièrement rasé par les nazis le 10 juin 1942 après l'assassinat par deux parachutistes tchécoslovaques de Reinhard Heydrich, un des plus hauts gradés des officiers SS. Le long métrage historique de Peter Nikolaev, qui retrace le destin de la petite commune, n'a pas caché ses ambitions. Doté d'un budget de près de 3 millions d'euros, il s'est adjugé les services d'Antonio Riestra, caméraman sur de grosses productions comme Amores Perros et Frida, ainsi que toute une pléiade d'acteurs tchèques connus. Objectif non dissimulé du film, la véracité, comme l'explique Edward Sterik, conseiller historique sur le tournage.
Ce n'est pas un film documentaire sur Lidice, sur la tragédie qui s'y est déroulée. C'est un film artistique qui s'intéresse au destin de plusieurs habitants de la commune qui, par un enchaînement de circonstances et de hasards, vont provoquer la tragédie. Donc, ce n'est pas un documentaire, mais nous avons voulu que les événements historiques soient justes.
D'ailleurs, c'est avec presque une manie du détail que le travail de reconstitution a été mené, rien n'ayant été laissé au hasard. Edward Sterik.
C'est évidemment une question très compliquée parce qu'il faut d'abord faire attention à tout l'environnement, les costumes, les bâtiments. Ensuite, il faut voir comment les gens s'expriment, faire attention au vocabulaire utilisé, parce que vous ne pouvez pas faire parler les gens comme il y a 70 ans. Ce serait difficile à faire passer auprès du public d'aujourd'hui. Il a donc fallu trouver un compromis.
Haben nicht nur den Heuchlern in den Vereinigten Staaten die Maske vom Gesicht gerissen, sondern eindeutig in der Welt die beiden Fronten klar umrissen. In den letzten Tagen hat folgerichtig der größte Teil der Antikominternstaaten auch seinerseits die Konsequenzen gezogen.
Et puis évidemment, l'un des principaux soucis pour un film sur Lidice, c'est la figure du protecteur de Bohème-Moravie, Reinhard Heydrich. Edward Sterik encore.
La figure de Heydrich est un problème si vous faites un film et que vous mettez en scène l'attentat. Avec sa physionomie, c'était une personne très particulière. Il est difficile de trouver quelqu'un qui lui ressemble. Je pense que pour ce film, ils ont eu de la chance. Pour l'acteur allemand qui l'interprète, on ne peut que se dire qu'il a été bien choisi. Donc c'est une réussite à ce niveau-là.
Si le scénario du film a été composé par l'écrivain Zdeněk Malher, il s'est également beaucoup appuyé sur le livre d'Edward Sterik, Lidice, histoire d'un village tchèque récompensé en 2004 par un prix. Edward Sterik.
Je me suis rendu compte que personne n'avait écrit de livre sur Lidice qui raconterait l'histoire du village avant la tragédie. Tous parlent de l'assassinat de ses habitants et de ce qui a suivi, mais je me suis dit que le seul moyen de montrer l'horreur, c'était de montrer comment le village vivait auparavant. Il fallait dire qu'il y avait une église, un club de foot, un club de hockey, qu'il y avait un groupe de musique connu qui avait enregistré des disques. Il fallait montrer le quotidien des gens. J'ai même choisi de décrire plus précisément le destin de certains habitants en particulier, leur vie.
Au départ de la tragédie de Legiezé, une simple lettre d'amour tombée dans de mauvaises mains, évoquant une fausse activité de résistance qui, mal interprétée, fera croire aux nazis que l'attentat contre Heydrich a été fomenté à Legiezé. La réplique ne se fera pas attendre.
Nachdem die Einwohner dieses Dorfes durch ihre Tätigkeit und durch die Unterstützung der Mörder von SS-Probegruppenführer Heydrich gegen die erlassenen Gesetze schärfstens verstoßen haben, sind die männlichen Erwachsenen erschossen, die Frauen in ein Konzentrationslager überführt und die Kinder einer geeigneten Erziehung zugeführt worden.
La propagande nazie veut faire de Legiezé une punition exemplaire. Tous les hommes majeurs doivent être abattus, les femmes envoyées en camp de concentration et les enfants transférés pour être rééduqués, germanisés en Allemagne. Or, pour l'historien Edward Sterlich, la réalité est encore pire et le film s'efforce de rétablir la vérité.
Tohle všichni se tváří, a to najdete i v zahraničních encyklopediích, že takhle to bylo. To není pravda.
Même dans les encyclopédies étrangères, on présente les choses ainsi, mais ce n'est pas vrai. La majorité à l'époque, comme dans la plupart des pays d'Europe, était à 21 ans. Or, les nazis ont exécuté des garçons de 15 ans. Donc, ce 10 juin 1942, à Legiezé, on tire sur des enfants. Les femmes en camp de concentration, on oublie de préciser un détail, que c'est à vie. Et pour les enfants envoyés en rééducation dans des familles allemandes, il faut préciser que sur les 150 enfants, seuls 17 sont revenus. Tous les autres ont été gazés.
Ze 105 lidických dětí se vrátilo 17. 88 bylo zavražděno.
À l'origine, la sortie du film Legiezé était prévue pour bien plus tard, mais les producteurs ont décidé d'avancer la date à début juin afin de permettre aux écoles d'aller le voir avant la fin de l'année scolaire, et ce, dans un but pédagogique. Edward Sterlich.
J'ai l'impression que l'intérêt de la jeune génération pour l'histoire est plus important qu'il y a quelques années. Le problème, c'est plutôt comment vous le leur présentez. Si vous le faites sous forme d'une histoire, ce qui est le cas de Legiezé, ils se rendent très bien compte que ce type d'événement n'est pas très loin. Legiezé, ce n'est pas la préhistoire. Ou les dinosaures.
Alors oui, en effet, Legiezé, ce n'est pas les dinosaures, et ce ne sera d'ailleurs pas la seule commune en Europe à connaître ce sort tragique. Deux ans après, jour pour jour, le petit village d'Oradour-sur-Glane en France sera également rasé comme Legiezé.
C'était un nouveau chapitre de l'histoire proposé cette semaine par Anna Kubishta. Merci à elle, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse email français@radio.cz, français@radio.cz, l'adresse que vous retrouvez évidemment sur notre site www.radio.cz.